bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Samuel Bernard, Clémence Alezard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, place à notre table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler aujourd'hui de l'Allemagne et en particulier d'Angela Merkel. La semaine dernière, Barack Obama faisait sa tournée d'adieu à l'Europe. Il a choisi pour ce faire Berlin. Dans une conférence de presse commune, il a salué la partenaire extraordinaire qu'est Angela Merkel, saluant son sérieux et sa crédibilité, affirmant même dans une interview au Spiegel, la chancelière et l'Allemagne forment un appui central pour la protection des principes démocratiques fondés sur la liberté et le marché qui ont assuré la prospérité et la sécurité en Europe et dans le monde. De quoi redonner des forces à la chancelière qui, depuis, a annoncé qu'elle se présenterait pour un quatrième mandat lors des élections fédérales de septembre 2017. Alors la chancelière sera-t-elle suffisamment forte pour conserver les commandes de son pays qu'elle conduit depuis 2005 maintenant? Et qu'en est-il au-delà de ses frontières? Pourra-t-elle assumer ce statut de gardienne des valeurs libérales occidentales comme l'écrivait le New York Times et en particulier dans cette Europe où sont régulièrement attaquées justement ces valeurs, notamment en Europe centrale, on parlera notamment de la Hongrie, mais aussi de la Pologne. Pour évoquer toutes ces questions avec nous en plateau, Hélène Miard de la Croix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à la Sorbonne, auteure notamment de ce défi européen de 63 à nos jours. À vos côtés également, pour évoquer toutes ces questions, Jacques Rupnik, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, le CERI de Sciences Po. Avant d'ouvrir notre table ronde consacrée à Angela Merkel, place à notre moment, ce retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres, la journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Irak, c'est Hélène Salon. Bonjour Hélène Salon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc journaliste, grand reporter pour Le Monde. On vous reçoit pour une série d'articles publiés dans Le Monde. Vous avez passé 5 semaines en Irak, notamment pour suivre l'évolution évidemment de cette offensive à Mossoul qui a débuté maintenant à la mi-octobre dernier. Les combats se poursuivent pour reprendre la deuxième ville d'Irak. On est au nord de Bagdad, contrôlée, on le sait, par Daesh depuis juin 2014. Depuis des mois qu'on attend cette bataille. Bien, les djihadistes ont eu le temps de se préparer en montant des lignes de défense, en préparant des véhicules piégés, en creusant des abris, en confectionnant aussi des mines, constituant évidemment un défi terrible pour les militaires chargés de sécuriser ces zones libérées. D'abord, un tout petit mot sur l'actualité. Hélène Salon, l'Irak vient de vivre un terrible attentat hier. Au moins 70 morts dans un attentat au camion piégé dans une station-service de Chomali, à 120 km au sud-est de la capitale Bagdad. C'est essentiellement des chiites de retour de pèlerinage dans la ville sainte de Karbala qui ont été tués. L'État islamique a évidemment revendiqué cette attaque. Ces attaques aux véhicules piégés, c'est devenu quasiment une marque de fabrique pour Daesh en Irak. Vous avez eu l'occasion, je crois d'ailleurs, d'en croiser. C'est un défi militaire considérable pour les soldats qui sont sur place.
Oui, alors pour ce qui est des attentats qui se passent loin du front de Mossoul, comme à Bagdad ou dans d'autres zones déjà libérées, on sait que c'est des attentats de diversion. Et le risque, l'après Mossoul, parce qu'on peut déjà l'envisager, c'est que l'Irak soit face à ce type d'attentat sur des zones déjà libérées, déjà sécurisées et qui est plus de front avec l'État islamique, mais qui est une multiplication des attentats dans les villes déjà reprise.
Oui, et puis il y a évidemment aussi des attentats aux véhicules piégés dans Mossoul, autour de Mossoul. C'est d'ailleurs ce qui a coûté la vie au sergent Haider Fakhri, dont la disparition a terriblement secoué la division d'or avec laquelle vous étiez pour cette session en Irak. Vous étiez intégré donc avec les forces spéciales irakiennes. On sait que les forces chargées de libérer de Mossoul sont extrêmement hétéroclites. Il y a les forces kurdes, il y a l'armée irakienne, il y a différentes milices chiites, il y a des entités arabes sunnites également. Les forces irakiennes spéciales, c'est quoi dans ce paysage? De qui finalement défendent-elles les intérêts et quel est son rôle dans la libération de Mossoul, en quelques mots?
Alors les forces antiterroristes irakiennes ont été créées en 2003. Ce qu'elles font depuis le début de la bataille contre l'État islamique en 2014 n'est pas du tout leur rôle initial. Mais comme l'armée a été mise en déroute par l'État islamique et que c'est la force qui est quand même la mieux armée, elle est armée par les Américains, qui a vraiment un esprit de corps, ces 2000 hommes, en tout cas à Mossoul. Et c'est une force très structureuse, structurée, très professionnelle. Donc depuis le début de la reconquête des territoires pris par l'État islamique, c'est elle qui est en première ligne de la bataille. Donc à Mossoul, il y a d'abord eu une phase où les combattants kurdes de Peshmerga devaient reprendre une bande de territoire à l'est de Mossoul. Une fois cette bataille menée, c'est les forces spéciales qui ont été en première ligne pour entrer dans Mossoul et maintenant pour grignoter quartier par quartier cette ville, reprendre les quartiers qui ont été pris par l'État islamique.
Où est-ce qu'on en est de cette reconquête ? Est-ce que vous avez l'impression que la bataille avance et que le rapport de force est en train de basculer en faveur des forces libératrices, on va les appeler comme ça, ou est-ce que vous diriez que on sent quand même une réelle résistance et qui laisse penser que cette éradication de Daesh qu'on attend tous dans cette région Mossoul sera longue ?
Les forces spéciales avec qui j'étais ont toujours su que la bataille allait prendre du temps, et notamment à l'intérieur de Mossoul, pour plusieurs raisons, parce que c'est un tissu urbain, donc c'est très difficile pour... C'est quand même des unités motorisées avec des blindés, des tanks, donc c'est compliqué d'avancer dans la ville. Les combattants de l'organisation État islamique se cachent au milieu de civils. Les civils sont nombreux, les estimations vont de 750 000 à 1,5 million. Et comme vous le disiez, il y a une arme qui est redoutable, qui est utilisée par l'organisation État islamique contre les forces irakiennes, c'est les voitures piégées notamment. On a vu beaucoup plus de dangers par ces kamikazes et les voitures piégées que par les RPG, les missiles RPG ou les obus de mortier.
Alors, ce qui complique justement beaucoup cette tâche, c'est la présence de ces civils, et notamment pour l'appui aérien. Et d'ailleurs, il arrive qu'il y ait des bavures. Je crois que le major Salam qui vous accompagnait vous le concède d'ailleurs.
Oui, moi j'ai été témoin même dans une opération de sécurisation. Lors de mission, ils avaient repéré 10 combattants de l'organisation État islamique. Avec les tirs, les renseignements, les observations, ils ont pu suivre le parcours de ces combattants qui allaient se cacher de maison en maison. Et un mauvais renseignement, une fois, a amené ces troupes à viser une maison qui, en fait, était habitée par uniquement des civils. Donc il y a eu un blessé, et c'est malheureusement, le major Salam le reconnaissait, c'est un des risques de ces opérations au milieu des civils, c'est de pas pouvoir discerner assez bien entre les civils et les combattants, et parfois avoir les combattants qui se cachent sur les toits des maisons civiles.
Et comment ça se passe précisément quand les forces spéciales irakiennes rencontrent ces civils ? Vous dites que c'est toujours un face-à-face très tendu.
Oui, parce qu'il y a des arrière-pensées, une appréhension de chaque côté. Pour, par exemple, dans des opérations de sécurisation qu'on a faites, donc on voit les soldats avancer en ligne dans les rues qui ne sont pas sécurisées encore. Donc ça veut dire qu'ils partent avec l'idée qu'il y aura des combattants de l'organisation État islamique peut-être terrés dans les maisons, peut-être des kamikazes parmi les femmes et les enfants, parce que c'est des renseignements qu'ils ont eus. Et donc il y a une appréhension de leur part. Donc quand les civils arrivent, ils leur demandent de ne pas avancer, de montrer donc leur torse pour s'assurer qu'ils n'ont pas de ceinture explosive. Et de la part des civils, il faut voir qu'avant la prise de Mossoul par l'État islamique, il y avait déjà des rapports tendus avec les autorités, avec l'armée notamment à Mossoul.
Oui, parce que ces forces spéciales, en réalité, elles représentent le pouvoir central chiite.
Oui, pour les
évidemment,
les habitants
pour des populations sunnites.
Ça font pas compliqué. La différence. Ouais. Moi, j'ai vu qu'elle se comportait vraiment avec beaucoup de respect et d'humanité, ce qui est peut-être pas le cas de toutes les forces. On sait qu'il y a eu des exactions dans d'autres forces, mais là, c'est le cas. Mais les habitants, eux, ne savent pas à qui ils ont affaire, et ce n'est seulement que quelques heures, peut-être le lendemain, qu'ils se rendent compte que voilà, ces forces ne font pas d'exactions, ils ne sont pas expulsés, et que ça peut bien se passer. Donc le premier face-à-face est très tendu.
Mais quand même, pour ces soldats, l'objectif premier, c'est précisément d'obtenir des informations sur les djihadistes. Comment est-ce qu'ils les obtiennent ? Est-ce que ça se fait vraiment sur le mode de la coopération et, comme vous le dites, sans aucune intimidation ? Ou est-ce que quand même, il peut arriver qu'on mette un peu la pression, justement, sur ces civils pour avoir des informations ? D'autant qu'on sait bien, on va en parler dans un instant, certains d'entre eux ont, sinon collaboré, au moins soutenu l'idée de leur présence sur place.
Ou parfois se sont terrés. Il y a aussi beaucoup de gens qui se sont cachés. Les forces antiterroristes, juste pour préciser pour les auditeurs, c'est des forces qui mènent l'offensive, cherchent des renseignements, mais pour avancer, pas pour discerner qui a collaboré, qui est resté neutre. C'est le rôle des forces qui viendront sécuriser. Donc quand, par exemple, le major Salam va dans les habitations et essaye de savoir auprès des habitants où pourraient se terrer encore des combattants, quelle route est sécurisée vers les autres quartiers vers lesquels il veut avancer. Donc il va interroger les habitants. Souvent, la grande majorité d'entre eux vont dire « Ah, moi, je ne sais rien. De toute manière, ça fait 15 jours que je me terre », ce qui est souvent le cas. Et il laisse faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcer aux confessions. Certains, d'eux-mêmes, ont envie de donner des informations. Après, on voit qu'il y a aussi des gens qui sont amenés par ces soldats et présentés comme des collaborateurs, parfois un peu bousculés par ces soldats. J'ai pu le voir, c'est pas très méchant.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire des croche-pieds, on bouscule un peu, on essaye d'impressionner la personne. C'est, y a pas de, en tout cas moi je n'ai pas
été témoin. Parce que vous avez vu,
voilà. Donc voilà, et lui reste toujours dans une certaine distance et un certain respect.
Que deviennent ces civils ? Parce que vous évoquez par exemple le cas de cette jeune femme au visage tailladé qui débarque complètement hagard dans l'hôpital de campagne. Encore cette habitante du quartier Al-Sama qui s'appelle Oum Fateh, qui vous confirme d'ailleurs qu'il y a des dizaines de personnes qui sont mortes sous les bombardements. Qu'est-ce que deviennent ces personnes-là lorsqu'elles sont libérées par ces forces précisément ? On les envoie dans des camps de réfugiés ?
C'est très variable en fait. Les personnes par exemple qui arrivent immédiatement dans les camps de réfugiés ou dans les zones où nous étions pour aller vers les camps de réfugiés, fuyaient les combats. Ce qui se passe pour le moment, c'est que les forces antiterroristes leur demandent de rester chez elles quand il n'y a pas de danger. Donc là, on a vécu, nous, au milieu des habitants. Mais il y a en ce moment une réflexion sur un changement de stratégie parce qu'ils se rendent compte que c'est bien trop dangereux pour ces populations et que quand une zone est libérée, c'est dans une zone urbaine. Donc ils continuent de recevoir des obus de mortier, peut-être des voitures piégées. Donc c'est trop dangereux et il y a de plus en plus de morts civiles. Donc nous, on a été témoins plutôt de populations qui restaient chez elles, qui étaient autorisées à rester chez elles, ou qui allaient dans les camps quand la zone était vraiment trop dangereuse au milieu des combats. Mais pas beaucoup de réfugiés partaient dans les camps.
Alors vous avez notamment rencontré une famille qui a vécu pendant 2 ans donc sous le joug de l'État islamique. Vous rencontrez notamment Maher, professeur de biologie à la retraite, qui s'est caché, lui, jusqu'à ce que les forces justement spéciales irakiennes arrivent sur place. Il est aux côtés de ses deux fils, Ali et Youssef. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions ils ont vécu sous l'ère des djihadistes de Daesh ? Et puis peut-être aussi le souvenir qu'ils ont de leur arrivée ?
Oui. Alors, Maher, déjà, donc il est à la retraite, donc il a vécu principalement chez lui. J'ai bien aimé le personnage parce que je suis arrivée, il avait vraiment son jardin bien entretenu. Il m'a tout de suite dit « Ah, je veux apprendre le français ». Il parlait très bien anglais, tous les trois. « Je veux apprendre le français, j'ai des CD ». Il m'a montré ses tableaux. Donc on voit qu'il a passé 2 ans et demi, vie de petit retraité qui sortait juste pour aller faire ses courses. Pour ses deux fils, c'était différent. Ils étaient en master et première année d'ingénierie de la communication. Donc, eux étaient d'ailleurs encore terrorisés. On le voyait, ils voulaient pas raser leur barbe. Ils voulaient attendre que les combattants soient repoussés de l'autre côté du fleuve. Et eux ont dû arrêter la faculté. C'est des jeunes. Ils avaient 27 et 21 ans. Donc, ils ont dû plus ou moins mettre en suspens leur vie. Sauf le plus vieux, Ali, qui a continué à travailler. Donc, il a pris un petit emploi dans un magasin de CD, DVD. Dans le quartier de l'université où il y avait beaucoup de combattants étrangers et qui, lui, voilà, a côtoyé beaucoup ces combattants jusqu'à ce que ça finalement se passe mal à la fin de l'année dernière où il y a eu des combattants de l'organisation islamique qui ont dit que leur commerce était interdit, qui l'ont fait fermer et donc ils ont préféré arrêter et donc lui s'est terré aussi à la maison et il restait toute la journée à la maison.
Ouais, il dit qu'il a côtoyé beaucoup de ces combattants d'origine très différente. Il vous parle de Tchétchènes, de Français, de Chinois, de Japonais même. Et il vous dit ils étaient gentils et je me sentais navré pour eux et pour ce qu'ils étaient devenus. Il y a aussi une forme d'empathie envers eux.
C'est pas vraiment de l'empathie, c'est plutôt de la pitié pour eux, je pense vraiment, réellement, parce que je pense qu'il était face à des jeunes comme lui, qui venaient acheter des DVD, des CD, il me parlait même de films d'animation japonais parfois, jusqu'à ce que ce soit interdit. Donc eux, clairement, m'ont dit, notre vie a changé avec l'organisation État islamique et vraiment pas en bien. Il n'était pas du tout empathique par rapport à ce groupe. Mais voilà, il y avait un rapport humain qui fait qu'on voit l'autre et ce qu'il est devenu. Et peut-être une empathie ou de la pitié.
essayez de nous faire comprendre comment ça s'est passé au départ lorsque l'État islamique est arrivé sur place. Parce que ce qu'ils vous disent tous, c'est qu'en réalité, il y avait déjà, sinon des éléments qui étaient déjà dans les rangs de Daesh, au moins des gens qui soutenaient l'idéologie Daesh et qui ensuite ont rejoint Daesh.
Oui, il y a une continuité.
Il y avait déjà un terreau.
Oui, il y a une continuité de toute manière entre Al-Qaïda en Irak et Daesh. Donc Al-Qaïda en Irak avait été repoussé, mais il restait des éléments et des cellules dormantes.
Et voilà. Au départ, ça se passe plutôt bien, c'est ce qu'ils vous disent.
Maher me disait, pendant, ça fait quand même 5 ans qu'on a des assassinats, du racket, que c'est pas si calme que ça à Mossoul. Or, il s'est avéré qu'il était très étonné. Il dit, moi, je comprends pas comment en 3 jours... comme ça, ils ont réussi à faire tomber la ville, à prendre la ville. Et les 3 me disaient, on a découvert des gens qui étaient nos voisins, le vendeur d'ordinateurs, des professeurs d'université qui, du jour au lendemain, quand l'État islamique avait pris le contrôle de la ville, se sont dévoilés. Et ils étaient très étonnés. Notamment, Maher me parlait de son voisin d'en face qui était un réfugié de l'Anbar. Donc lui, avec beaucoup d'empathie, a cru bien faire en disant les pauvres, ils ont fui l'État islamique pour venir se réfugier à Mossoul, parce que l'État islamique a d'abord pris Ramadi Fallujah en fin 2013, et on va les aider. Et il se rend compte en fait que le père disparaît et qu'il réapparaît 2 mois après, en juin 2014, quand Mossoul tombe. Et c'était un des chefs de l'EI. Ouais,
des professeurs d'université, dites-vous. Youssef, ce qu'il vous dit, je le cite, « Il n'y avait pas que des ignorants qui les ont rejoints, mais aussi des médecins et des gens instruits. » C'est vrai qu'on a l'idée ici que finalement la plupart des djihadistes sont des individus pas forcément les plus instruits, pas forcément les plus connaisseurs des textes religieux, mais en réalité, les profils, en tout cas sur place, sont extrêmement variés.
Oui, c'est varié. Bon, il me disait quand même que leur quartier, Saddam, c'est un quartier très pauvre, peu éduqués, avec un fondamentalisme religieux qui était déjà là. Et c'est aussi ce qui fait que le quartier était très pro-État islamique. Tout le monde dit à 60-70%. Mais voilà, il mettait une nuance en disant mais il n'y a pas que des gens inéduqués. Il y a aussi des élites. Mais c'est pas la majorité, mais il y en a, c'est certain.
Oui, sans compter que ces élites-là, elles ont été assez directement ciblées aussi par Daesh. Je crois que quand ils sont arrivés, par exemple les baassistes... Oui. On fait l'objet d'une répression assez sévère de la part de Daesh.
Oui, tout ce qui pouvait être élite concurrente, les baassistes étaient alliés pendant les quelques jours du début avec l'organisation État islamique. Mais une fois que l'organisation État islamique a pu installer son pouvoir, il y a eu vraiment une chasse aux sorcières contre ceux qui pouvaient contester son autorité, donc les baassistes. Après, il y avait aussi,
je vous coupe, mais c'est vrai qu'on a aussi cette idée, on l'a beaucoup dit, qu'il y avait dans les rangs de Daesh aussi des anciens baassistes.
Oui, beaucoup.
Il y a de tout en réalité.
Oui.
Toute dernière question peut-être, Hélène Salon. À mesure évidemment que les djihadistes multipliaient cette répression, les arrestations, les tortures, les exécutions, la population a commencé à se rebeller. Quelles étaient justement les formes de cette rébellion?
On m'a parlé, j'ai eu plusieurs témoignages d'attaques et de meurtres de djihadistes. C'est-à-dire que une des premières familles que j'ai rencontrées à Saddam me disait que 3 jours avant que l'opération commence, il y avait eu 3 djihadistes tués. Et il y a même eu la constitution, en fait, d'un groupe de résistance locale, très secret. On sait pas qui c'est. On pense que justement, c'est des anciens baassistes, Naqshbandi, qui ont monté ce groupe et qui montent des raids contre des combattants qui ont encore réussi à cacher des armes et qui, voilà, font des actions contre les combattants de l'organisation État islamique. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes sont devenus de plus en plus paranoïaques.
Donc il y avait aussi une forme de résistance.
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Hélène Salon, d'être passée dans notre studio. Je rappelle que vous êtes journaliste, grand reporter au Monde. On peut vous lire sur lemonde.fr, encore un certain nombre d'articles à vous, et vous en préparez d'autres, je crois. Merci beaucoup d'être passée.
Merci.
Cette page irakienne pour se diriger vers l'Europe et en particulier vers l'Allemagne. Après l'élection de Donald Trump et la tournée d'adieu de Barack Obama, Angela Merkel, nouveau leader du monde libre, c'est notre sujet ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et oui, en effet, la semaine dernière, Barack Obama a effectué sa tournée d'adieu à l'Europe. Et alors que les États-Unis ont élu un homme qui suscite beaucoup d'inquiétudes ici en Europe, il a décidé, comme un symbole, d'aller saluer une dernière fois en tant que président américain celle qui lui semble incarner la stabilité et la gardienne des valeurs de nos démocraties occidentales, Angela Merkel.
Bien sûr que je vais tout faire pour bien travailler avec le nouveau président. Mais aujourd'hui, je veux dire merci. Merci pour ce travail en commun, de qualité, amical et intensif.
Tout ce que je peux dire, c'est que la chancelière Angela Merkel a été une partenaire extraordinaire. C'est peut-être le dernier leader parmi nos proches alliés qui était là quand je suis arrivé. Si j'étais ici, si j'étais allemand et si je votais, je la soutiendrais.
Voilà, alors est-ce que la chancelière allemande saura préserver les valeurs démocratiques occidentales? Est-ce qu'elle parviendra à garantir l'unité de l'Europe? Est-ce qu'elle parviendra à s'opposer aussi à ce nouveau type de régime qu'on voit émerger ça et là, notamment dans cette Europe centrale, ce modèle qu'on appelle la démocratie libérale? Et d'ailleurs, parviendra-t-elle seulement à se succéder elle-même alors qu'elle a annoncé qu'elle serait donc candidate pour la prochaine élection fédérale de septembre 2017? Pour évoquer toutes ces questions, Hélène Mire de la Croix, Jacques Rupnik sont nos invités, Marc Sémo et bien sûr à nos côtés notre partenaire du Monde chaque vendredi. Marc, on va commencer avec vous comme on fait chaque vendredi. Jusqu'ici, c'est vrai que cette chancelière allemande, elle apparaissait comme le véritable leader de l'Europe, et d'ailleurs elle l'était. On l'avait vu défendre avec beaucoup de courage ses valeurs lors de la crise des réfugiés. Qui elle a ouvert les portes, ce qui n'est pas d'ailleurs non négligeable, parce que le coup politique est réel, on en parlera, et donc elle, en rien peut-être elle n'est sûre d'avoir ce quatrième mandat. Mais c'est vrai qu'avec l'élection de Donald Trump, voilà que sa responsabilité devient encore plus grande. La presse internationale a parlé de nouveau leader du monde libre. Ça peut paraître une expression un peu pompeuse, un peu emphatique, mais quand même, de fait, ça lui donne une nouvelle responsabilité, Marc Sémo.
Absolument. Et Mouti, maman, comme l'appellent les Allemands, a effectivement un leadership moral. Alors, on savait déjà qu'il y avait ce leadership économique de l'Allemagne, ce leadership politique en Europe, hein, surtout notamment avec l'affaiblissement dans le couple franco-allemand de la France, un leadership diplomatique, l'Allemagne commençait à peser de plus en plus en politique étrangère, bientôt un leadership militaire, hein, l'Allemagne annonçait, Angela Merkel elle-même devant le Bundestag, qu'ils allaient doubler pour arriver aux 2% du budget pour la défense comme le veut l'OTAN. Mais il y a surtout cette dimension du leadership moral, ce qui en Allemagne est très important. Il y a une soif de cette reconnaissance. Hein, au moment où Joseph Ratzinger était devenu pape en succession de Jean-Paul II, il y a eu cette une extraordinaire de Bild, Wir sind Papst, nous sommes le pape, le nous sommes le pape. Hein, ce besoin d'avoir donc, voilà, c'est ce qui manquait à l'Allemagne, vu son histoire. Et Angela Merkel exprime ça. Alors souvent, on était passé un peu à côté du personnage, parce qu'on disait, oui, elle est prudente, elle est pragmatique, elle n'a pas vraiment grandi dans avec des sentiments pro-européens, ce qui est faux. Hein, Angela Merkel est une fille de l'Est, elle a grandi en RDA, et l'Europe était d'autant plus forte que c'était un rêve de l'autre côté du mur. Ensuite, pour conclure, ce qu'on oublie aussi, ce qu'on sous-estime, les faits sont là, c'est une très grande femme politique. Et dans son bureau, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, donc maintenant elle va bientôt peut-être dépasser la longévité de Helmut Kohl, il y a toujours un portrait de Catherine II, la grande tsarine, d'origine allemande d'ailleurs, qui est un peu son modèle, qu'elle emmène partout avec elle. Alors Catherine II, c'est à la fois une grande femme politique, une tsarine de fer, et en même temps la protectrice de Diderot et de Voltaire.
Hélène Mire de la Croix, elle va devoir affirmer ce leadership moral dont parlait Marc Sémo.
Alors le leadership... Déjà, on peut en effet le décliner pour l'Allemagne fédérale, telle qu'elle est aujourd'hui. Le leadership moral s'impose absolument, et je crois que ce n'est pas un hasard. Si le président Obama a choisi d'aller à Berlin, ce n'était pas nécessairement pour donner un coup de pied dans les jambes de la France. C'était aussi très clairement parce que, et il avait raison, il a dit c'est la dernière à être encore là. Et elle incarne une forme de stabilité dans ce monde qui est tout en mouvement, où on ne prévoit pas des espèces de vagues qui viendrait d'une majorité, une minorité silencieuse, etc. Et puis, on peut juste continuer sur ce point, Barack Obama a voulu là aussi un peu se rattraper vis-à-vis des Européens, et c'est comme ça que ça a été beaucoup interprété en Allemagne. C'est intéressant toujours de regarder les médias de l'autre côté, parce que, bon, bien sûr, on a beaucoup montré dans la presse allemande les photographies et les scènes d'embrassade, parce que ça fait bien, mais en même temps, les commentaires étaient un petit peu en demi-teinte, parce qu'il a été beaucoup dit qu'il était quand même bien temps que le président Obama, qui est venu quand même plusieurs fois en Europe et qui est venu en Allemagne, s'intéresse vraiment à l'Europe, alors qu'il avait quand même tourné beaucoup son regard vers le Pacifique. Et que certes, il a choisi l'Allemagne, mais c'était surtout un signal à donner aux Européens, un message en général, après Donald Trump, elle est solide et elle mérite les compliments qu'il a reçus. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec Marc Semo sur la question du leadership militaire. Alors d'abord, il y a la question de savoir, est-ce que l'Allemagne a vraiment envie de leadership et est-ce que voilà Angela Merkel aime cette notion de leadership? C'est très très compliqué parce que c'est vrai qu'on la connaît beaucoup mieux. Ça, en 2017, lorsque va se poser la question de savoir si le nouveau Bundestag réélu va la choisir de nouveau comme chancelière, ça fera 12 ans qu'elle sera là, ça fera 17 ans qu'elle est chef du parti. On a l'impression quand même de bien la connaître et en même temps cette femme reste une énigme parce qu'elle est à la fois très clairement une femme de pouvoir, mais elle n'a pas les codes du pouvoir habituel. C'est-à-dire que elle est tant dans l'apparence, dans la gestuelle et dans le discours, toujours dans cette modestie. Alors là aussi, l'opposition en Allemagne lui reproche que c'est une fausse modestie, qu'elle anesthésie tout le monde, qu'elle endort le peuple allemand pour, d'une certaine façon, pouvoir continuer à être active derrière ce ton monotone. Donc je ne sais pas si le mot leadership lui plaît très bien.
Alors, pour continuer à être active, et justement, on va peut-être interroger cette activité, et je me tourne vers vous, Jacques Rupnik. Certains considèrent qu'elle est devenue une icône, avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'en gros, elle incarne les choses, elle est une responsable politique qu'on respecte davantage peut-être par ce qu'elle est que par ce qu'elle fait. C'est en tout cas le sens, par exemple, de l'article de Arnaud Le Parmentier du Monde, justement, paru cette semaine. Il écrit la chose suivante. Aujourd'hui, rien faire, c'est sombrer. Et Madame Merkel ne propose rien ou si peu. Elle est la chancelière de conflits gelés, faute d'avoir le courage ou le capital politique de s'y atteler. Est-ce qu'on prête pas trop, finalement, de pouvoir à la chancelière allemande qui, de fait, est à la tête de la première puissance d'une Union européenne extrêmement divisée et fragilisée aujourd'hui?
Oui, je crois que cette stature morale dont on parle ici, et le voyage d'Obama est venu consacrer ça, l'éditorial du New York Times, cette stature morale, elle l'a acquise très récemment. C'est à travers la crise des migrants. Jusque-là, elle n'avait pas de stature morale. On disait, c'est, comme disaient les Anglais, « safe pair of hands », c'est-à-dire quelqu'un qui connaît son affaire, qui sait gérer et qui est très pragmatique. Et ça, c'est ce dont l'Europe a besoin. Et c'est d'ailleurs, en temps normal, voilà, l'Europe, ça tourne tout seul, en quelque sorte, et on n'a pas besoin de s'intéresser trop à l'Europe. Et c'est dans la crise migratoire que, soudain, le geste extraordinaire de Merkel qui dit « il n'y a plus de Schengen, les Grecs ne peuvent plus contrôler la frontière, eh bien, vous êtes les bienvenus, wir schaffen das, nous y arriverons, etc. » Et à ce moment-là, face à une Europe de l'Est tétanisée, qui fermait les frontières, construisait les clôtures comme Orban, une Europe de l'Ouest perplexe, inquiète, parce que, sentant que qui allait profiter politiquement de la vague migratoire, eh bien, c'était les nationalistes et les populistes. Et Merkel, ignorant cela, n'est-ce pas, au nom du principe d'accueil, faisait ce geste. Et c'est à ce moment-là qu'elle acquiert la stature morale. Jusque-là, elle n'avait pas de stature morale particulière. Et donc, il y a à la fois la longévité, elle est au pouvoir depuis longtemps, et il y a une stature morale très récemment acquise. Et puis il y a un troisième élément qui est le déclassement, le départ des Britanniques et le déclassement de la France. Donc vous combinez tout ça et vous avez une stature morale. On peut ériger une statue à Angela Merkel. D'ailleurs, statue qu'érige Obama, qui lui s'est très peu intéressé à l'Europe, parce que il a commencé sa campagne en Europe. Il est venu faire une tournée en Allemagne où il a été accueilli, un quart de million de personnes à Berlin avant son élection. Donc c'était le plus populaire en Europe. Mais après, il ne s'est pendant longtemps, il ne s'est pas intéressé à l'Europe. Il a fait son pivot vers l'Asie. Et ce n'est que dans la crise récente, et migratoire et politique, que soudain on découvre. Après l'élection de Donald Trump, parce qu'il faut bien voir que l'hommage que rend Obama à Merkel, c'est bien sûr lié à la situation non pas européenne, mais américaine. C'est que l'Amérique n'a plus ce rôle de gardien de l'ordre libéral qu'elle avait jusqu'à maintenant. Et à qui passe-t-on le relais? Eh bien, on regarde et on trouve pas grand monde. Finalement, il y a Merkel.
Je vais peut-être poser la question peut-être un tout petit peu différemment. Finalement, que peut Merkel aujourd'hui, compte tenu des difficultés de l'Europe et de la principale faille de l'Europe, c'est-à-dire son déficit démocratique. Qu'est-ce qu'on peut réellement attendre d'Angela Merkel de ce point de vue-là, sachant que vous parliez de Donald Trump, d'une certaine manière, on pourrait aussi être inquiet de voir une Allemagne se recentrer sur elle-même dans un contexte de difficulté générale dans cette Europe-là. Est-ce que le quatrième mandat d'Angela Merkel ne sera pas celui du recentrement, du repli sur l'Allemagne? C'est aussi une possibilité, finalement. Qu'en peut-on attendre réellement d'Angela Merkel quant à l'unité de l'Europe?
Jacques Rupnik. Tâche difficile parce que l'Allemagne, contrairement à l'image qu'en donne peut-être Obama et le New York Times, c'est peut-être le leadership moral récemment acquis, mais c'est aussi la division de l'Europe. Sur la question de l'euro, l'Allemagne symbolise la cassure nord-sud. Dites aux Grecs que c'est l'Allemagne d'Angela Merkel qui a le leadership moral et je ne sais quoi, vous verrez ce qui comment c'est reçu dans l'Europe du Sud en général, en Italie par exemple. En Italie. Donc il y a, je pense, la cassure nord-sud, c'est l'Allemagne aussi, sur la question de l'euro. Ensuite, il y a la cassure est-ouest sur la question des migrants. Et à nouveau, elle a le bon rôle dans cette affaire. C'est pas faire l'éloge de la fermeture, mais un constat simplement. Avec Merkel, ceux à qui s'est opposé Orban, à qui se sont opposés Kaczynski et les autres, le groupe de Visegrad, quand ils ont dit non au quota, c'était non à l'Allemagne. Il fallait voir les couvertures dans les journaux polonais, hein. On voyait les dirigeants allemands en uniforme de la Deuxième Guerre mondiale, avec un certain monsieur Juncker, hein, ça sonne allemand, et un certain monsieur Verhofstadt, ça sent aussi. Et vous aviez là l'image de d'une Europe dont l'Europe de l'Est ne veut pas. Donc l'Allemagne, c'est aussi la double cassure nord-sud et est-ouest, et il n'y a que le couple franco-allemand qui pourrait reformer une unité européenne, mais faudrait-il encore qu'il y ait du côté français un partenaire.
On va revenir évidemment sur cette cassure est-ouest. Hélène Miard de la Croix, sur cette question de ce que peut Angela Merkel quant à la division, quant aux difficultés de l'Europe, et puis ensuite Marc Sémo. Hélène Miard de la Croix.
Elle ne pourra pas toute seule, de toute façon. On a tendance à avoir l'impression que l'Allemagne pourrait décider à la place des autres et pourrait seule en Europe prendre des décisions. L'Allemagne ne peut pas seule prendre en Europe des décisions. Jacob Nick l'a parfaitement dit. Il y a un très grand nombre d'acteurs qui sont hostiles à sa position. Ça va dépendre beaucoup de ses voisins. Ça va dépendre, en particulier, il y a un intérêt très très fort en Allemagne sur l'évolution de la situation politique en France et sur les perspectives que donne la campagne électorale et donc de la présidentielle et des législatives suivantes, parce que en effet, vous avez évoqué Kaczynski, Orban, vous rajoutez Erdogan, l'Allemagne se trouve, elle, très peu dans une situation confortable face à cette impression d'avoir autour de soi que des régimes, des populations qui, en effet, ont recours à des préjugés et qui sont hostiles à l'Allemagne et qui ne permettraient pas de continuer une ligne qui est considérée comme raisonnable, comme on l'a dit, liberté, marché, prospérité. Et en plus, les Anglais sont partis. Ça a été perçu en grande partie comme une trahison en Allemagne de la part des alliés traditionnels britanniques, le Royaume-Uni, ayant cette espèce de ligne du marché, etc. C'est vrai que, à regarder de près, vous dites, l'Allemagne risque-t-elle de se replier sur elle-même? Ça va beaucoup dépendre de nous et ça va beaucoup dépendre de la France. Et là, j'irai beaucoup plus loin encore que ce que vient de dire Jacques Hoepnik. Il est encore plus temps que jamais que là, ce qu'on a appelé, alors peut-être avec des violons, le couple franco-allemand, enfin cette capacité à agir de concert, considère que c'est pas maintenant ou jamais, mais il est quand même extrêmement temps de prendre les affaires en main ensemble, parce que l'Allemagne toute seule n'arrivera pas.
Maximum.
Alors justement, on est dans cette situation paradoxale où l'Allemagne est à la fois plus puissante que jamais et en même temps très seule. Hein, alors paradoxalement, on se retrouve même dans la Sonderweg, dans cette voie solitaire de l'Allemagne, au cœur de l'Europe. Mais en même temps, toutes ces fractures sont vraies, mais à chaque fois, d'une certaine façon, les alliances qu'elle peut recomposer sont différentes. Et ce qui est aujourd'hui fondamental, c'est que l'Allemagne a pris conscience et assume, notamment grâce à Angela Merkel, de un certain nombre de responsabilités, y compris en termes de politique étrangère. C'est-à-dire que l'Allemagne doit avoir une politique étrangère, vu son importance économique, mais aussi en termes de défense. Hein. Merkel, là-dessus, a contribué aussi à faire évoluer les Allemands. Et c'est pour ça que je pense qu'elle reste nécessairement au centre du jeu et qu'elle a énormément d'atouts. Et que ce rôle, elle peut le jouer. Surtout, effectivement, vu qu'elle est toute seule, de fait.
Oui, je ne suis pas sûre qu'elle ait tellement...
Hélène Miard de la Croix.
encore, on puisse encore parler au passé composé, qu'elle a réussi à faire évoluer les Allemands sur la question militaire. Alors c'est vrai que le Bundestag a considéré qu'en effet il était raisonnable dans la situation actuelle et surtout depuis l'élection de Donald Trump, qui a quand même envoyé, on est encore dans un grand flou artistique, mais qui a envoyé un certain nombre de messages assez clairs sur une tendance à l'isolationnisme américain, et a considéré qu'il ne serait plus raisonnable que les Américains payent pour protéger les autres, et qu'il faudrait donc que les Européens prennent leur affaire en main. Les Allemands sont sentis particulièrement visés. En partie parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un certain nombre d'atouts en matière de défense, comme peuvent l'avoir un certain nombre de voisins, notamment la France, mais parce que là aussi, il y a une mémoire. C'est que, rappelez-vous quand même, l'Allemagne a été, dans l'époque de la guerre froide, complètement dépendante de la protection américaine. Et donc, ça ébranle cette élection de Donald Trump, ça ébranle en Allemagne, malgré la réunification, malgré ce qu'on appelait la fin de la guerre froide, une certitude sur le lien traditionnel transatlantique qui a contribué à construire cette Allemagne nouvelle, stable, raisonnable et sur laquelle on peut compter.
Peut-être un mot sur la future élection fédérale de l'année prochaine, d'aller du côté de l'Europe centrale. L'Allemagne va avoir donc ses élections en septembre 2017. Angela Merkel vient d'annoncer dimanche dernier, lors d'une réunion de la direction de la CDU, qu'elle serait candidate. Elle a déjà annoncé que cette élection serait probablement la plus difficile de toute sa carrière politique. Il y a eu évidemment la crise migratoire. Alors d'un côté, c'est ce qui a permis de donner ce leadership moral dont on parlait, mais c'est aussi ce qui a cassé, quand même brisé la confiance, en tout cas pour une partie de l'opinion allemande. Est-ce qu'elle peut perdre ?
Alors, il faut d'abord peut-être, excusez-moi, un tout petit instant, rappeler bien, parce que les auditeurs français ont toujours du mal à comprendre cette spécificité allemande. On dit que Angela Merkel est candidate à la chancellerie, mais elle n'est pas élue directement. On le rappelle toujours. Ce sont des élections législatives. Ce sont des élections législatives et donc va être constitué un Bundestag, un Parlement, qui va avoir une majorité dont on ne sait pas encore tout à fait quelle va être, parce qu'il y a de plus en plus de partis qui sont représentés. Et de cette majorité sortira une personnalité qui, en général, est traditionnellement le chef du parti dominant, le plus fort.
Posons la question autrement. Est-ce que l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne, qui, on le sait, depuis ces derniers mois, qui a été créée en 2013, mais ces derniers mois a considérablement monté pour devenir même quasiment la troisième force politique en Allemagne. Est-ce que l'AFD représente un danger pour Angela Merkel et pourrait l'empêcher de se succéder à elle-même ?
Alors, d'un point de vue strictement mathématique, oui, dans la mesure où si l'AFD réussit au niveau fédéral, d'avoir plus de 5% des voix sur le scrutin de liste. Elle aura des sièges au Bundestag. Ça fait donc autant de sièges de députés avec lesquels on ne peut pas former une coalition, parce que l'AFD est, comme jusqu'alors aussi en France, le Front National, un parti avec lequel on ne peut pas former de coalition. Donc ça veut dire que le nombre de sièges pouvant potentiellement constituer une coalition de gouvernement qui va soutenir un gouvernement se modifie. Vous allez avoir des Verts, vous allez avoir des sociaux-démocrates et vous allez avoir des libéraux qui peut-être vont repasser la barre des 5% aussi, et vous allez avoir l'extrême-gauche. La CDU, là, si elle veut continuer à gouverner, va devoir trouver des coalitions, c'est-à-dire des arrangements et des compromis. C'est pourquoi, Madame Merkel...
C'est pas gagné, c'est ce que vous dites.
Alors, c'est pas gagné. C'est pas gagné, d'autres combinaisons sont possibles. D'autant plus qu'hier est arrivée quand même de Bruxelles la nouvelle que Martin Schulz revenait en Allemagne, et il a pas encore dit exactement pourquoi faire. On suppose
Il pourrait être le candidat du SPD. C'est une possibilité.
En revanche, il a annoncé une chose. Il a annoncé qu'il allait être tête de liste de la liste SPD dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Donc ça veut dire qu'il est élu au Bundestag. Quand vous êtes tête de liste du SPD, vous êtes élu au Bundestag.
Donc potentiellement chancelier.
Il peut être chancelier. Pour autant, dans un premier temps, on suppose qu'il va prendre de la suite de Steinmeier, qui lui-même va en février être élu président de la République.
Passons peut-être à l'Europe orientale, l'Europe centrale, Jacques Rupnik. Depuis l'arrivée de Viktor Orban lors des élections de 2010, on voit sur cette rive orientale de l'Europe qu'on se tourne de plus en plus vers des dirigeants, d'aucun dit populiste, mais c'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup ce mot, mais on pourrait parler peut-être de ce fameux modèle qui avait été avancé par Orban de démocratie illibérale. On voit que ça se diffuse, on a en Pologne ce parti droit et justice qui est arrivé au pouvoir, plus récemment en Bulgarie on a l'élection d'un pro-russe, Roumen Radev, soutenu par le Parti Socialiste d'ailleurs, au poste de président contre la candidate du parti au pouvoir. Il se veut un pragmatique, mais quand même il est favorable à la levée des sanctions contre Moscou, il veut accélérer la coopération avec la Russie, même s'il dit qu'il restera fidèle à l'OTAN comme à l'Union européenne. On voit quand même une forme de nationalisme croissant, une certaine remise en cause, bien sûr, des valeurs occidentales. Comment vous voyez-vous l'avenir de cette Europe orientale, jusqu'où, finalement, l'euroscepticisme de ces sociétés pourrait-elle aller, et est-ce que ces pays sont finalement une menace pour l'Union européenne ?
Il y a plusieurs choses. Je crois qu'il y a d'une part une régression de la démocratie dans un certain nombre de pays. Vous avez mentionné la Hongrie depuis l'arrivée d'Orban au pouvoir, Kaczynski en Pologne. Mais il y a d'autres pays comme la Slovaquie, qui en ce moment préside l'Union européenne, mais qui a une coalition au pouvoir. C'est un Orban de gauche allié à ce qui est à peu près l'équivalent du Front national, hein, le Parti national slovaque. Mais ils sont beaucoup plus modérés, disons, dans leur ton et dans leur euroscepticisme, encore que c'est quand même le Premier ministre slovaque qui a traîné la Commission européenne devant la Cour de justice européenne sur la question des quotas de migrants. Vous présidez l'Union européenne, mais vous traînez la Commission européenne devant la Cour. C'est quand même assez inhabituel. Nous avons eu en Croatie un gouvernement au printemps, qui était un gouvernement à peu près de la même tonalité qu'Orban, nationaux, conservateurs, avec un ministre de la Culture ouvertement révisionniste, hein, qui est négationniste, concernant les massacres commis par le régime oustachien. Donc, ce gouvernement s'est tiré lui-même une balle dans le pied, un scandale de corruption. Il y a maintenant une nouvelle mouture de la coalition avec un Premier ministre qui est un ancien parlementaire européen, donc je pense aura plus le souci, disons, de ne pas ouvertement affronter. Donc il y a cet aspect-là, régression de la démocratie, mais en sachant que les forces politiques dont on parle, elles sont partout en Europe. C'est pas un phénomène européen. Elles sont partout en Europe. Et elles montent partout en Europe. La seule différence,
sauf c'est qu'elles accèdent au pouvoir.
Elles sont au pouvoir. Elles sont au pouvoir. Et ailleurs, elles risquent de l'être. Il y a là-dessus une autre question qui est la relation avec la Russie et l'effet Trump. Quand même, faut voir la réaction à Trump. Le président tchèque, Miloš Zeman, qui dit... qui lui écrit une lettre le lendemain en disant « Dans mon pays, on m'appelle le Trump tchèque ». Et il dit ça pour montrer, n'est-ce pas, sa fidélité au nouveau président américain. Orban, dans son interview au Daily Telegraph, absolument inouï. Le libéralisme non démocratique, donc parce que lui, il est défenseur de la démocratie non libérale. Donc le libéralisme non démocratique a échoué avec l'élection de Trump, dit-il. Il enchaîne « What a day, what a day, what a day ». Il répète trois fois, il exulte, il dit « c'est formidable », etc. Et ça, avec Trump, en Amérique, c'est tout ce courant que, en quelque sorte, on nous accusait, on pointait le doigt, on disait « mais c'est la dérive autoritaire, vous êtes des marginaux, des nationalistes, vous êtes en train de casser l'Europe ». Mais non, avec le Brexit, on a eu confirmation... Hein, le vote du Brexit, ils sortent de l'Europe, ils sont contre Bruxelles, et ça s'est joué largement sur la question migratoire. Et maintenant, avec Trump, on a exactement le même phénomène du populisme anti-immigré, etc., etc. Donc, il exulte, et il dit, on nous pointait du doigt, nous étions l'avant-garde. Donc, l'Europe de l'Est, qui pendant 20 ans a passé son temps à imiter les modèles occidentaux, européens, américains, dans la démocratie, maintenant découvre, n'est-ce pas, c'est comme dans la nouvelle de Maupassant, n'est-ce pas, où il y a le coureur du Tour de France, il y en a un qui est attardé, il est tellement attardé que le tour de l'année suivante, n'est-ce pas, arrive et il est en tête. Donc, l'Europe de l'Est, n'est-ce pas, le national-populisme est-européen serait en quelque sorte l'avant-garde des nationalistes populistes qui sont en train de balayer l'Europe, avec l'exception allemande, où jusqu'à maintenant, ce phénomène n'avait pas vu le jour, et c'est une des raisons pour lesquelles on s'accroche peut-être du Justement. Côté d'Obama, etc., à l'idée que, voilà, c'est le pays qui n'a pas succombé, disons, au virus national populiste.
Marc Zemmour.
Alors justement, qu'est-ce que peut faire l'Allemagne ? Parce que
voilà. On parle de ce leadership moral parce que jamais, aujourd'hui, sa responsabilité n'a été aussi forte.
Alors déjà, qu'est-ce que peut faire l'Allemagne à la maison, chez elle? C'est-à-dire que ça, c'est, il faut aussi bien penser que la chancelière, quand elle a déclaré sa candidature, c'était certes pour continuer à avoir sa position de chancelière sur le parquet, la scène internationale, mais c'est quand même d'abord pour être élue par sa population. Et elle a déclaré vouloir tendre la main aux déçus et essayer de récupérer, de ramener dans le camp, dans l'espace démocratique des partis de gouvernement, tous ceux qui pouvaient être tentés par précisément ce national-populisme qui en Allemagne est apparu relativement tardivement. Là aussi, on avait un Sonderweg, une espèce de chemin à part, de spécificité allemande, mais qui prend des traits assez inquiétants dans la mesure où ça ressemble vraiment quand même beaucoup à ce qui se passe chez les voisins, avec notamment, et ce qui est le plus choquant pour la population majoritaire en Allemagne, un recours systématique à un vocabulaire qui est soit ce qu'on appelle völkisch, hein, soit carrément d'extrême droite, voire nazi, en lançant des mots dans l'espace public. Alors ça provoque un petit peu... Ben, le mot völkisch, déjà, le simple mot völkisch, qui voulait dire, je le rappelle, dans tout le début du XXe siècle, la République de Weimar, le rejet d'un modèle démocratique au bénéfice des intérêts du peuple qui est défini par sa race et par son origine. Donc c'est un projet réactionnaire, en partie raciste et très antidémocratique. Et donc, ils ont lancé ce mot qui fait partie des mots tabous en Allemagne, en disant, le mot völkisch, c'est un adjectif qui est dérivé du mot folk. Et là, on voit comment on joue sur les mots, parce que le mot folk, dans l'Allemagne contemporaine, c'est le peuple souverain composé de citoyens. Mmh. Et là, il y a une espèce de ça ressemble beaucoup à ce que fait le Front National, de détabouisation progressive des termes pour contaminer l'espace public.
Alors, il y a ce que peut faire Angela Merkel à l'intérieur de son pays, et puis il y a ce qu'elle peut faire éventuellement au-delà de ses frontières, Jacques Rupnik, parce que l'émergence de ces démocraties libérales, appelons-les comme ça, à l'est de l'Europe, il y a aussi derrière ça une forme d'alignement avec la Russie, avec Moscou. Donc il faut regarder aussi que peut Angela Merkel face à Poutine. Alors, tout à l'heure, Marc Sémol l'a rappelé, elle est née à l'Est, elle connaît parfaitement, c'est probablement celle qui en Europe comprend mieux. Elle parle russe, absolument, elle comprend parfaitement Poutine. Poutine parle allemand. Il a été effectivement en poste en Allemagne de l'Est, vous avez raison. Donc on voit qu'elle a réussi d'ailleurs un certain nombre de fois à dialoguer avec lui. On pense à la crise ukrainienne, aux accords de Minsk, même s'ils ne sont pas complètement appliqués. Mais on voit qu'il y a eu quelques succès. Mais on voit aussi qu'il y a des difficultés, qu'elle a du mal finalement à éviter cet alignement de ces pays-là sur Moscou, qu'elle a du mal à faire entendre sa voix sur un certain nombre de dossiers. On peut penser par exemple à la Syrie, mais il y en a d'autres. Finalement, quelle est la réelle capacité d'opposition d'Angela Merkel face à Poutine? Jacques Rupnik.
Alors il y a plusieurs questions.
Ah oui, il y en a
d'abord
plein.
Les pays d'Europe centrale ne sont pas alignés sur Moscou. Il y a par exemple la crise ukrainienne nous a servi de révélateur en quelque sorte.
Non mais on voit bien qu'il s'inspire Orban, la Pologne, etc. Récemment la Roumanie. Il y a une forme d'alignement, non ?
Non.
D'accord.
Il partage peut-être avec Poutine l'idée que l'Europe est décadente culturellement. Ils sont conservateurs culturellement. Et il trouve que l'Europe, qui est celle de l'avortement, du mariage gay, du multiculturalisme, etc., que ça, c'est la voie de la décadence et qu'il faut la patrie, la religion, la famille,
les valeurs. Donc il partage davantage les valeurs portées par Moscou
mais ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls.
Non, mais bien sûr, bien entendu.
Sauf qu'ils sont
au pouvoir.
Oui, mais ça, c'est sur les valeurs et une certaine vision de ce qu'est l'Europe. Pour ce qui est de la politique étrangère, pas du tout. Prenez la crise ukrainienne. Ceux qui sont les plus durs vis-à-vis de la Russie de Poutine, c'est la Pologne. Et le gouvernement actuel en Pologne, le gouvernement Kaczynski, est virulent et déchaîné. Ils sont obsédés.
Orban est très ambigu par rapport
à
Moscou.
Le gouvernement Kaczynski est virulemment anti-russe. Ils sont obsédés par le complot qui aurait l'accident de l'avion où a péri le jumeau Kaczynski. Et Au contraire, ils sont absolument gênés. De même que les pays baltes, etc. Donc c'est la menace russe, c'est la menace de sécurité numéro un. Au moment où l'Europe considère que et l'Amérique aussi de Donald Trump considère que l'État islamique, la menace du Sud, ça c'est la menace numéro un. Les pays d'Europe de l'Est considèrent que c'est la Russie de Poutine et ce qu'elle a fait en Ukraine qui est la menace numéro un. Alors ils ne sont pas unis là-dessus. Vous avez des pays comme des gouvernements comme Orban en Hongrie qui est plus réservé, beaucoup plus réservé là-dessus, plus indulgent. Vous avez entre les deux, peut-être, le gouvernement tchèque et slovaque, qui trouvent que les sanctions, c'est pas formidable, mais ils les appliquent et ils les appliqueront si nécessaire. Vous avez, on a dit, Bulgarie, élection, gouvernement pro-russe. C'est les gens qui ont voté pour le gouvernement, ils ont voté l'alternance, ils n'ont pas voté parce que le nouveau président, qui a d'ailleurs très peu de pouvoir pro-russe. Donc, je pense que c'est un peu aller vite en besogne, parce que ces pays connaissent la Russie, certains d'entre eux, et la population hongroise, et la population polonaise, et les Tchèques, ils savent aussi deux, trois choses sur la Russie. La mémoire n'est pas complètement défaillante.
Mais vous n'avez pas l'impression que du côté de la Pologne, justement, pour rassurer... Vous avez raison, on est obsédé par la menace que représente Moscou, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que, justement, avec cette obsession, on mise davantage sur un rapprochement avec Washington qu'un rapprochement avec Bruxelles? En tout cas, on compte moins, finalement, aujourd'hui, sur l'Europe pour assurer sa propre sécurité que sur Washington. L'Allemagne. Regardez par exemple les contrats d'hélicoptères. On a annulé les contrats d'hélicoptères avec la France. On a pris un contrat avec les États-Unis. Ce qui montre bien que d'une certaine manière, on compte davantage sur l'OTAN que sur l'Europe de la sécurité, l'Europe de la défense.
Ils comptent sur les États-Unis pour leur sécurité et l'OTAN parce que c'est la seule instance qui ait fait ses preuves en matière de sécurité. L'Europe de la sécurité et de la défense, ils y croiront quand ils la verront. Donc pour l'instant, ils se sont tournés vers les États-Unis. Sauf que, entre-temps, aux États-Unis,
vous avez les.
Oui, mais entre-temps, il y a l'élection de Donald Trump qui change les choses. Et Trump, qui a soulevé un certain nombre de doutes sur l'OTAN et sur la fiabilité de la garantie de l'article 5, va peut-être amener un certain nombre d'entre eux à considérer que l'Europe, qu'ils aiment critiquer, et après le Brexit, ils demandent de rapatrier des pouvoirs au niveau des gouvernements nationaux, que cette Europe est finalement un moyen de se protéger très important, et donc
il y a avec l'Allemagne en son cœur.
Et il y a des raisons géopolitiques qui, donc, malgré l'hégémonie allemande, qu'il voudrait éviter à tout prix. Moi, je terminerai par la phrase de Thomas Mann.
Très rapidement.
Thomas Mann qui disait il faudrait une Allemagne européenne pour ne pas avoir une Europe allemande. Ça c'est ce que veulent les Européens de l'Est aussi, pour ne pas avoir une Europe allemande. Aujourd'hui, on a les deux. On a l'Allemagne européenne et une Europe qui est dominée par l'Allemagne. Les Européens de l'Est souhaiteraient une Europe qui serait, j'allais dire, recomposée, où l'Allemagne n'aurait pas cette hégémonie qu'elle a par défaut aujourd'hui.
On est très en retard, il y a encore des doigts qui se lèvent, il va falloir qu'on fasse une suite à cette table ronde. Merci beaucoup infiniment, en tout cas à tous les trois, d'avoir été avec nous. Jacques Rupnik, Hélène Miard de la Croix et Marc Sémo, bien sûr, du Monde. Tout de suite, on retrouve Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
On va un peu poursuivre, puisqu'on va parler aussi des conséquences de l'élection de Donald Trump. Et maintenant, les élections sont passées, malgré sa nette domination en voix à l'échelle du pays. Hillary Clinton a cependant été battue par Donald Trump, parce que les États-Unis sont une fédération où l'on vote État par État. Dans moins de deux mois, et par le biais du spoil system, une nouvelle administration va donc prendre possession de la Maison-Blanche et de Washington. Qu'apporte dans ses bagages ce convoi de chariots républicains, Brice?
Eh bien, première observation, bien des nominés n'auront pas besoin de déménager, puisqu'ils habitent déjà sur place. On ne compte pas le nombre de vieux lobbyistes habitués des couloirs de la Chambre des représentants et du Sénat. L'homme qui voulait nettoyer les écuries de Washington semble s'entourer de personnages qui y avaient leurs entrées depuis des lustres. Le site Politico en cite un certain nombre, soulignant les liens de certains d'entre eux avec les industries du gaz et du pétrole, celles de la pharmacie et du tabac. Que des gens recommandables et favorables aux thèses environnementalistes, comme vous vous en doutez. Mais au cœur du dispositif, à la Maison-Blanche elle-même, les risques de conflit d'intérêts entre Donald Trump, président des États-Unis, et Donald Trump, propriétaire d'un empire économique, sont évidents. Comme l'écrit Wendy Kaminer sur le site Spiked, les républicains qui ont protesté avec véhémence contre le mélange des genres lorsque la secrétaire d'État Hillary Clinton continuait à gérer la fondation Clinton semblent étrangement discrets sur cet aspect incongru de la présidence Trump. C'est sans doute la version républicaine de la political correctness, ironise-t-elle. Certes, Trump s'est déchargé de toutes ses responsabilités à la tête de son empire et en a abandonné les clés à ses trois enfants les plus âgés, mais ceux-ci ne bénéficieraient-ils pas auprès de leur cher papa d'informations bien utiles pour la gestion des sociétés Trump ? Une multiplication de délits d'initiés est dans les tuyaux. En outre, comment faire la leçon aux tenants du capitalisme d'État installé par Poutine en Russie lorsqu'on s'apprête à pratiquer soi-même ce que les anglo-saxons appellent le « crony capitalism », le capitalisme entre copains, à moins qu'une nouvelle convergence soit en cours là aussi. Conclusion de Wendy Kaminer, ceux qui avaient rêvé d'installer un libertarien à la Maison-Blanche en seront pour leurs frais. L'équipe au pouvoir ne croit pas au libre et transparent marché, mais bien plutôt au montage juteux entre initiés et sous protection publique.
Mais qu'est-ce qui a poussé, Brice, plusieurs dizaines d'Américains des classes populaires, des classes moyennes, à porter au pouvoir un milliardaire dont la seule promesse effectivement tenable est une baisse générale des taux d'imposition qui vont surtout favoriser les revenus les plus élevés?
Eh bien, c'est la question à laquelle tente de répondre le prix Nobel d'économie 2013 et professeur à Yale, Robert Shiller, sur le site Project Syndicate. Et de s'étonner que plusieurs études montrent que ceux qui se situent du mauvais côté de l'inégalité économique ne veulent pas, en général, des politiques publiques qui ressemblent à des aides financières. Il y a là une affaire de mentalité, dit-il, de culture. Aux États-Unis, les couches populaires considèrent la redistribution comme humiliante. Percevoir des aides publiques, surtout lorsqu'on a le sentiment d'appartenir aux classes moyennes, est vu comme un signe d'échec personnel. Ce que réclame l'Américain moyen, c'est, je cite, de contrôler sa vie économique, d'avoir des occasions de faire valoir ses capacités de travail. Des jobs, pas des aumônes. Et Robert Shiller cite un ouvrage étudiant les liens entre niveau des impôts et des inégalités dans 20 pays sur deux siècles, Taxing the Rich, History of Fiscal Fairness in the United States and Europe. Et la conclusion des auteurs, de manière générale, eh bien la montée des inégalités de revenus n'entraîne pas, de la part des pouvoirs publics, une augmentation des impôts. Shiller se demande aussi pourquoi des hommes politiques américains comme le gouverneur de Wisconsin, Scott Walker, sont devenus extrêmement populaires en baissant les impôts sur les riches. Eh bien la réponse jette une lumière très intéressante sur le vote Trump. Ce sont les comtés pauvres, ceux où résident les électeurs de la classe ouvrière en milieu rural, qui soutiennent le plus ce genre de politique de baisse des impôts. Ils avaient le sentiment de travailler dur et d'être injustement taxés au profit des gens de la ville. Lorsqu'on observe la carte du vote Trump, canton par canton, comme l'a fait tout récemment Marc Mureau pour la Brookings, on relève une forte opposition entre les grandes métropoles qui ont toutes voté massivement pour Clinton et les comtés ruraux et les petites villes qui ont donné la victoire finale à Trump. Les comtés qui ont voté Clinton représentent, figurez-vous, 64% du PIB du pays. Ceux qui ont voté Trump, 36%. Le vote républicain est donc devenu un vote de personnes qui ont le sentiment de ne pas posséder les compétences réclamées par l'économie de la connaissance, mais ils défendent des valeurs et surtout, ils veulent rester là où ils sont. Trump leur a parlé leur langage. Et c'est pourquoi, selon Shiller, Trump devra trouver un moyen de redistribuer du pouvoir, et non seulement les revenus, s'il ne veut pas être rapidement balayé par l'électorat qu'il s'est trouvé. Tout ça nous promet une présidence bien agitée.
Une présidence agitée, effectivement, il faut s'attendre à ça. Merci beaucoup, Brice Couturier, et merci pour cette série absolument passionnante pour essayer de comprendre cette élection de Donald Trump, guerre culturelle, guerre sociale, finalement un peu des deux. Merci infiniment. J'invite vraiment les auditeurs à réécouter merci l'ensemble de la série sur le site internet de France Culture, sur la page de Culture Monde, même sur là, il y a une page spécifique pour le tour du monde des idées. Merci beaucoup, Brice. On vous retrouve bien sûr lundi. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Olivia Jasbert.